Est-il normal que le psychanalyste soit quelqu'un de si bizarre?
La psychanalyse, c'est un monologue, sauf que le psychanalyste interprète. Ça, c'est un mot, interpréter, qui n'éclaircit pas la chose, hein, parce que le psychanalyste ne traduit pas, il n'explique pas, il dit ce qu'on appelle interprétation, c'est ce que dit le psychanalyste. Et c'est par là qu'il opère, dans le contexte très spécial qu'il a créé en encourageant celui qui est là, sur le divan ou en face de lui, à dire n'importe quoi. Eh bien, l'interprétation, comme on l'appelle, est un mode particulier de la parole, un mode bizarre. Bizarre ? Vous avez dit bizarre ? Bizarre, le mot lui-même est bizarre. Bizarre est bizarre. Quelque chose est bizarre quand il s'écarte des usages reçus, de l'ordre commun. Quelqu'un est bizarre dans la mesure où sa conduite n'est pas normale. C'est la définition du dictionnaire. Et le dictionnaire est là pour ça, pour attester l'usage normal reçu des mots dans un état donné de la langue. Eh bien, moi, il me semble que le mot de bizarre est tout à fait à sa place dans la psychanalyse. Si on prend les antonymes du mot, les mots contraires, dans le dictionnaire, dans le Robert, qu'est-ce qu'on trouve? Les contraires de bizarre, c'est clair, égal, équilibré, normal, ordinaire, pondéré, régulier et simple. Eh bien, il faut reconnaître que l'interprétation analytique n'est pas claire, qu'elle n'est pas équilibrée, qu'elle n'est pas simple, qu'elle n'est pas ordinaire, et qu'elle est au contraire volontiers obscure, excessive, complexe, et plutôt extraordinaire. Au moins, ce sont des énoncés, des paroles, une façon de parler qui sort de l'ordinaire. Les phénomènes sur lesquels Freud a fondé sa curieuse pratique sont par excellence des phénomènes bizarres, des phénomènes irréguliers et obscurs. Et on peut même dire que l'inconscient se manifeste fondamentalement de manière bizarre. Donc, quand est-ce qu'on vient en analyse? On vient en analyse quand on se sent le siège de certains phénomènes bizarres, d'un certain nombre de trébuchements, d'incapacités bizarres, d'obsessions bizarres, et surtout de symptômes bizarres. Et éventuellement, la bizarrerie s'étend à toute la personne. Enfin, il y a des cas même où la concierge s'inquiète de savoir si on peut laisser monter telle personne dans l'escalier. Ce n'est pas le cas le plus commun, bien sûr, mais enfin, ça peut arriver. Évidemment, les gens trop bizarres sont souvent emmenés ou vont d'eux-mêmes à l'hôpital psychiatrique quand la bizarrerie dépasse un certain degré. Quand ça dépend de la tolérance du milieu. Mais enfin, à vrai dire, le plus bizarre de tous, dans son exercice, dans sa profession, beaucoup plus bizarre encore que ses patients, c'est le psychanalyste lui-même. Bon, on s'y est habitué. Ou plutôt, on s'était habitué à ce personnage bizarre-là, faisait partie du paysage. Eh ben, au bout d'un siècle de psychanalyse, hein, nous y sommes. L'analyse n'apparaissait plus si bizarre que ça. Et ça faisait justement une difficulté à la psychanalyse de ne plus apparaître si bizarre que ça. Heureusement, depuis quelque temps, elle recommence à paraître bizarre. Et je dirais, c'est une chance. D'ailleurs, c'est ce qui sans doute m'amène à la radio, parce que, enfin, j'exerce maintenant la psychanalyse depuis un quart de siècle et que je ne songeais pas du tout à venir comme ça vous en parler par ce moyen, et personne de ceux qui disposent de ce moyen ne songeait à me le proposer. C'est parce qu'il y a eu un petit peu de remue-ménage autour de la psychanalyse ces dernières années, autour de la psychanalyse et de la psychothérapie, qu'on a cherché des poux sur la tête, etc., que finalement je me retrouve là, c'est une chance. Il faut dire que les psychanalystes avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas apparaître trop bizarre, pour démontrer qu'ils étaient des citoyens comme les autres, des gars réglos, de bons bourgeois. Ils n'avaient que trop bien réussi, il faut dire. Enfin, tout de même, ne nous arrêtons pas à ces apparences. On sent bien que ce n'est pas par ce côté-là qu'ils opèrent. Ce n'est pas par le côté où ils sont réguliers. Voyez Lacan. Lacan et la masse d'anecdotes qu'il concerne et qui sont toutes vraies, même les fausses, et qui toutes le montrent extravagant, bizarre, au possible. Eh bien, cette bizarrerie supposée n'a pas du tout nui, au contraire, à la psychanalyse, contrairement à ce que les âmes pieuses pouvaient croire. Cette bizarrerie incarnée par Lacan dans la seconde moitié du XXe siècle a plutôt rafraîchi, rajeuni la psychanalyse. Ça lui a donné comme un nouvel élan qui nous porte encore et qui porte même les gens, les psychanalystes qui sont contre. Donc, une touche de bizarre est peut-être, la marque du psychanalyste. Au point que les psychanalystes vraiment malins affectent le bizarre, même quand ils n'ont rien de bizarre. Par exemple, entre les deux guerres, un petit accent d'Europe centrale n'a certainement pas nui, au contraire, au prestige du psychanalyste. C'était même une sorte de trait obligé pendant un temps, puisqu'évidemment, il a fallu les importer, les psychanalystes. D'ailleurs, au départ, on les a importés d'Europe centrale. Bon, dans tous les films américains présentant un psychanalyste, dans la plupart, on les dote d'un petit accent, comme ça. Edgar Poe, avant le temps de la psychanalyse, avait fait un petit conte qui s'appelait « The Angel of the Odd », l'ange du bizarre. Et il fait parler cet ange du bizarre avec un épouvantable accent allemand en anglais, un peu dans le style dont Balzac fait parler Nucingen, le banquier. Et c'est une petite histoire d'ailleurs qui est comme une sorte de pressentiment de l'inconscient. Parce que « odd » en anglais, « odd », c'est l'impair, comme il y a les nombres impairs. Et ça qualifie très bien l'inconscient, Lacan l'avait noté quelque part, puisque l'inconscient, il fait faire des impairs. Le dictionnaire donne une liste sensationnelle de mots autour du mot bizarre. Et ce sont autant de termes qui pourraient s'appliquer à l'inconscient, à ces phénomènes, au patient, à l'analyste lui-même. Et j'adore cette liste. À partir de bizarre, dit le dictionnaire, voire abracadabrant, anormal, baroque, biscornu, cocasse, comique, extraordinaire, extravagant, fantaisiste, fantasque, fantastique, fantasmagorique, funambulesque, grotesque, insolite, monstrueux, original, plaisant, ironiquement, ridicule, saugrenu, singulier, marrant, populaire, un caractère bizarre, voire abrupt, capricieux, impossible, incompréhensible, inégal, voire cinglé, populaire, halluciné, iroquois. Ça, celui-là, je ne le connaissais pas, hein, ce mot. Lunatique, loufoque, maniaque, numéro, être un numéro. Olibrius, original, phénomène, pistolet, dans l'expression, drôle de pistolet, type zèbre. Tout ça, au fond, c'est l'espace même de la psychanalyse. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné aux psychanalystes, après Freud, il faut l'avouer, un amour immodéré de la norme. Pour compenser ce que ça avait de Olibrius, d'extravagant et de drôle de pistolet, la psychanalyse, ils ont développé, après Freud, une morale, ah mon Dieu, une morale psychanalytique, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle allait à contre-courant du mouvement même de la civilisation. Une morale franchement réactionnaire. En France, par exemple, contre mai 68, contre les féministes, contre les homosexuels, et enfin, ils ont prétendu, il y en a même certains un peu attardés qui prétendent encore démontrer, à partir de leur expérience, enfin que l'inconscient dit non, 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 non à tout ça. Remarquez, l'inconscient est réac. Ça ne fait pas de doute. Hein. Et c'est même pourquoi Lacan, toujours lui, disait que l'inconscient avait la même structure que le discours du maître. Mais que précisément, le discours de l'analyste, c'était plutôt l'envers de ça. Bon. Mais enfin, justement parce que l'espace psychanalytique est celui du bizarre, la règle a une grande place. En psychanalyse. Par exemple, si on fait une analyse, alors faut être très régulier à ses séances. Et quant au psychanalyste, il est quand même souhaitable qu'il bouge le moins possible. D'ailleurs, l'ange du bizarre, d'Egdarpo, n'a pas d'aile. C'est un ange sans aile. Ce qui domine toute la pratique psychanalytique, c'est une règle, celle qu'on appelle la règle de l'association libre, ce qui veut dire « n'ayez pas peur du bizarre ». Parlez sans reculer devant le bizarre. C'est dans le bizarre qu'est le salut, enfin, si je puis dire. Il faut justement, dans la psychanalyse, la régularité pour que le bizarre se détache vraiment. Il faut que l'instance de la règle, la régularité, soit représentée, parce que c'est sur ce fond-là que peut s'enlever, se détacher l'irrégulier. Et lorsqu'il parle, c'est au bizarre que le psychanalyste s'accorde. D'ailleurs, les interprétations les plus efficaces, c'est très souvent des sortes de gaffes, des sortes de bévues. C'est très difficile à distinguer de vrais impairs. Et puis on peut encore étendre le concept du bizarre, puisque le sujet névrosé est foncièrement un impair, au sens où il n'est pas apparié. Ou bien il cherche un compagnon pour ne pas être seul, ou bien ce compagnon il l'a, mais c'est pas le bon, croit-il, et en tout cas ça ne l'empêche pas de se sentir impair, hors du lot commun, hors de la paire, déplacé. Et c'est ce qui fait que le névrosé est toujours en plus ou en moins, toujours odd, toujours impair, toujours bizarre. Il y a quelque chose de boiteux dans son affaire. Alors le psychanalyste, en effet, peut lui servir une sorte de béquille. Le névrosé peut venir s'y appuyer dans sa boiterie. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, d'un mot anglais, enfin, à vrai dire, les lacaniens ne s'en servent pas, mais enfin bon, le holding, on sert de soutien. On restaure un équilibre dans l'impair, ou même on donne un abri. Mais enfin, ce n'est pas ça, l'acte analytique. Ce n'est pas non plus ça, l'interprétation. Ce n'est pas servir de béquille. Ce qui se découvre dans l'analyse, quand le sujet y mord, c'est qu'il souffre essentiellement de choses qu'on lui a dites. Une psychanalyse, ça consiste pour une bonne part, à retrouver, à isoler les énoncés qui ont rendu malade quelqu'un et à l'aider à les rendre inoffensifs, même l'aider à s'en débarrasser. Et disons, même si c'est forcer un peu la note, qu'on l'en débarrasse par d'autres énoncés qui sont calibrés pour ça. Et ce qu'on appelle l'interprétation de l'analyse, c'est ça. Ça consiste à envoyer des missiles de langage calibrés pour pulvériser ces énoncés dont pâtit celui qui est en analyse.